Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 18h, 16h à Dakar.
Le journal. En français facile.
Adrien Delgrange.
Bonjour à toutes et à tous. Vendredi 2 juin, à la une de cette édition, tout faire pour empêcher l'Ukraine de bouleverser la situation à l'intérieur de la Russie. C'est par ces mots que Vladimir Poutine, le président russe, réagit aux nombreuses attaques dans la région russe de Belgorod. Dakar, quadrillé par les forces de l'ordre. 9 personnes ont été tuées hier au Sénégal dans des violences après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Avec Lucille Gimbert dans le Petit Journal de l'Environnement, nous irons aujourd'hui en Chine, au Vietnam, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et puis enfin, nous parlerons tennis à la fin du journal. À Roland-Garros, le russe Rublev est tombé en 5-7 face à l'italien Sonego. À l'heure actuelle, Djokovic bataille sur le court central. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le territoire russe de nouveau attaqué. Cela fait maintenant plusieurs jours que des frappes aériennes visent la région de Belgorod, région russe située tout près de la frontière avec l'Ukraine. Ce matin encore, selon le gouverneur de la région de Belgorod, 2 personnes ont été tuées, 2 autres blessées lorsque les forces ukrainiennes ont bombardé une route dans la ville de Maslova-Pristan et puis dans la région de Bryansk. 2 villages ont été bombardés aujourd'hui par les forces ukrainiennes sans faire de victimes. Pour Vladimir Poutine, le président russe, ces attaques ne sont pas une urgence de premier ordre, mais simplement, écoutez, une préoccupation.
Aujourd'hui, nous traiterons des questions habituelles qui concernent la sécurité de la Russie, en l'occurrence la sécurité politique intérieure, en tenant compte des efforts que nos détracteurs déploient toujours afin de bouleverser la situation à l'intérieur de la Fédération de Russie. Et vous et moi devons tout faire pour les empêcher de le faire en aucune circonstance.
Vladimir Poutine aujourd'hui à Moscou lors d'un conseil de sécurité ordinaire, des propos recueillis par Anissa El-Jabri. Cette révélation à présent du Financial Times sur la guerre en Ukraine, d'après le quotidien britannique. Gazprom, le géant russe des hydrocarbures, est également engagé sur le front ukrainien. L'entreprise a décidé de créer sa propre milice, des combattants privés. Et pour cela, Amélie Beaucourt, bonjour.
Bonjour Adrien.
Gazprom s'est mise à recruter, à engager des hommes parmi ses propres employés.
Oui, ce sont des employés de Gazprom qui racontent cette histoire aux journalistes du Financial Times. Les recrutements à l'intérieur de la société avaient commencé au mois d'août 2022. Ce ne sont pas des ingénieurs du gaz qui sont ciblés, mais plutôt les agents de sécurité de l'entreprise. Pendant une réunion, l'un des chefs leur annonce que 2 personnes de leur équipe doivent se désigner pour partir volontairement au combat en Ukraine. L'avantage de recruter des hommes dans ces conditions, c'est qu'ils peuvent gagner plus d'argent que des soldats classiques qui travailleraient pour l'armée russe, mais aussi qu'ils ne perdent pas leur emploi en Russie au moment où ils partent en mission. Mais sur le terrain, justement en Ukraine, ces groupes paramilitaires ne sont pas appréciés de tout le monde. Le chef du groupe Wagner, par exemple, Yevgeny Prigojine, a déclaré en avril que ces milices feraient de l'ombre à ses soldats à lui, qu'ils seraient des concurrents et en plus, elles ne seraient pas très efficaces au combat.
Merci Amélie. Amélie Beaucourt dans votre journal en français facile.
Le journal en français facile.
L'inquiétude au Sénégal après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. 9 personnes ont été tuées hier dans des violences. L'opposant, accusé de viol, a été reconnu coupable de corruption de la jeunesse. Des affrontements meurtriers ont alors éclaté dans la foulée à Dakar ou encore à Ziguinchor dans le sud du pays, ville dont Ousmane Sonko est le maire. L'accès aux réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp ou Twitter ont été restreints pour faire cesser, selon les autorités, la diffusion de messages qui propagent la haine. Et enfin, les autorités sénégalaises ont décidé de déployer aujourd'hui des hommes en tenue et en armes de combat dans la capitale Dakar. La ville de Khartoum, sous les bombes, les bombardements continuent de faire trembler la capitale soudanaise. Des combats se sont poursuivis toute la nuit près du siège de la télévision d'État. C'est ce que rapportent nos confrères de l'AFP. Après sept semaines de guerre, la médiation, les négociations ou encore les sanctions de pays étrangers n'ont pas permis de stopper les combats. Demain, à l'occasion de l'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan, nous venons d'apprendre que le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, assistera à cette cérémonie à Ankara, et ce malgré les tensions historiques entre les deux pays, l'Arménie et la Turquie. L'heure à présent de retrouver Lucille Gimbert pour notre petit journal de l'environnement. Avec vous, Lucille Gimbert, bonjour.
Bonjour.
Commençons ce petit journal de l'environnement en parlant d'un virus, celui de la grippe aviaire, une infection contagieuse des oiseaux. Ce virus, Lucille, se propage sur le continent américain.
Il est déjà présent dans 17 pays, propagé par les oiseaux migrateurs, et il décime désormais la vie marine. Au Chili, par exemple, près de 9000 animaux sauvages ont été retrouvés morts depuis début 2023. Otaries, manchots, loutres et petits cétacés, du jamais vu, selon Victor Neira. Il est vétérinaire et virologue à l'Université du Chili.
Aux États-Unis, un grand nombre de mammifères avaient déjà été détectés positifs au virus. Des ours, des renards, des dauphins. Ici au Chili, cela touche principalement les otaries à fourrure. L'an dernier, sans grippe aviaire, on avait retrouvé environ 700 otaries mortes sur les plages. Cette année, en seulement 6 mois, on en a déjà retrouvé 7000. C'est 10 fois plus. Les otaries ont pu manger des oiseaux morts infectés ou alors elles ont pu se le transmettre entre otaries. Mais on doit encore étudier tout ça.
Tout autre sujet, Lucille, face à la chaleur, aux températures élevées, la Chine s'inquiète pour son réseau électrique.
Les records de température se multiplient. Conséquence, les habitants allument la climatisation, les entreprises aussi, et tout cela consomme beaucoup. Les centrales tiendront-elles le coup cet été quand il fera encore plus chaud et que la production hydroélectrique sera faible ? Pour s'y préparer, les autorités vont organiser une grande simulation pour tester la robustesse du système.
Même problème, mais autre solution, nous sommes au Vietnam.
Oui, à Hanoï, la capitale coupe déjà l'éclairage public pendant la nuit pour économiser le courant et permettre aux habitants de se rafraîchir grâce à l'air conditionné.
Enfin, au Ghana et en Côte d'Ivoire, les effets des plantations de cacao sur la déforestation dans les aires protégées étaient sous-estimés.
C'est la revue scientifique Nature qui nous le dit. Plus de 380 000 hectares de forêts protégées ont été détruits en 20 ans par les cultures de cacao. C'est plus de 27 000 terrains de football chaque année.
Merci Lucille. Lucille Gimbert pour le petit journal de l'environnement, tous les vendredis dans le journal En français facile. L'heure de rejoindre Frédéric Suteau dans les tribunes de Roland-Garros. Ce sont les internationaux de France de tennis. Troisième tour aujourd'hui, toujours sous un soleil éclatant à Paris. Frédéric, l'Ukrainienne Elena Svitolina vient de se qualifier pour les huitièmes de finale.
Oui, ancienne numéro 3 mondiale, Elena Svitolina, qui a donné naissance à une petite fille en octobre dernier. Elle qui vit et qui est l'épouse du joueur français Gaël Monfils. Elle n'a repris la compétition qu'il y a 2 mois et la voilà en huitième de finale après un succès en 3-7 face à la Russe Anna Blinkova avec un point formidable sur la balle de match. 7-5 dans la troisième manche. Et cette rencontre se déroulait, Adrien, dans un contexte particulier comme à chaque fois qu'un joueur ou une joueuse ukrainienne affronte un compatriote, non pas un compatriote, mais un russe ou un biélorusse en raison de la guerre en Ukraine. Les relations sont extrêmement tendues et Elena Svitolina n'a pas serré la main de son adversaire à la fin du match. Elle n'a pas serré la main de la russe Anna Blinkova et elle l'a ignoré, ce qui a provoqué quelques sifflets dans les tribunes.
Frédéric Suteau, un dernier mot pour vous dire qu'en France, sport et religion, lors de la visite à Marseille du pape François, nous apprenons que le pape célébrera une grande messe en public dans le stade Vélodrome.